il n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, à mon avis, chers frères et sœurs, de comprendre la parabole que nous avons entendue dans l'évangile de Luc à l'instant. À première vue, elle traite d'un thème qui nous est familier, que la culture chrétienne nous a rendu familier, le thème du dépouillement par rapport aux richesses de ce monde, pour se concentrer sur l'essentiel. Pourtant, cette parabole n'est, à mon avis, pas si facile à comprendre. Tout d'abord, je trouve qu'il n'est pas facile de comprendre comment est-ce qu'on peut appliquer cet enseignement, puisque donc, le passage que nous avons lu est suivi d'une exhortation de Jésus encore plus radicale, exhortation à ne pas se soucier du lendemain et à être, vous connaissez peut-être ce passage, comme les oiseaux et les fleurs des champs qui n'amassent pas de grains, qui ne se soucient pas du lendemain, et pourtant Dieu leur donne à manger, et voilà, les lys des champs, Dieu les revêt de gloire. Voilà. Or, nous savons bien que si nous ne nous soucions pas du lendemain, eh bien, les choses peuvent très mal tourner. On peut se retrouver dans la misère. On peut, nous savons bien que nous passons notre vie en fait à nous soucier du lendemain. C'est vrai dès l'époque de Jésus, qui s'adressait pour une bonne part à des paysans, qui, comme tous les agriculteurs, prévoyaient leur travail en fonction de la météo, engrangeaient leurs récoltes en attendant l'hiver, etc. C'est pour ça d'ailleurs que les images liées à ces réalités agricoles sont si présentes tout au long de l'Évangile. Donc c'est vrai dès l'époque de Jésus, et c'est bien sûr encore plus vrai à notre époque, où nous naissons avec un numéro de sécurité sociale, et où nous ne pouvons pas vraiment refuser de nous soucier du lendemain, puisque si on ne le fait pas, eh bien, l'État, par le système de cotisation, etc., que nous connaissons bien, le fait à notre place. Comment donc ne pas comprendre ce riche déraisonnable, comme l'appellent nos Bibles, c'est le sous-titre de la Bible Second, comment vivre comme les oiseaux ou les fleurs des champs, sans nous soucier aucunement du lendemain. Alors, pour résoudre cette difficulté, il me semble qu'il peut être intéressant de passer par l'autre lecture du jour. J'ai choisi de suivre les lectures proposées par le calendrier œcuménique, voilà, donc les lectures que suivent aussi les catholiques et les autres confessions chrétiennes ce dimanche, sauf que je n'ai pas pris l'épître, voilà, pour ne pas faire trop. Donc l'autre lecture du jour dans l'Ecclésiaste. Donc le livre de l'Ecclésiaste, vous le savez peut-être aussi, grâce au début très célèbre, « Vanité des vanités, tout est vanité », qui était traduit un peu différemment là, mais on connaît cette idée. Le livre de l'Ecclésiaste répète donc le constat plein d'amertume de la vanité de notre monde, où on ne récolte pas toujours le fruit de son travail. Et juste avant notre texte du chapitre 2, on a un passage qui associe l'accumulation de richesses à l'accumulation de sagesse. Bien travailler, c'est travailler avec sagesse, avec méthode. Et c'est cela qui apporte du gain, pense l'homme. Mais, dit l'Ecclésiaste, à quoi bon ce sage travail, puisque, et là c'est ce que nous avons lu, puisqu'il peut être par exemple transmis à un héritier qui lui ne travaille pas avec cette méthode, cette prévoyance, et qui non seulement n'a pas travaillé pour obtenir ce gain, mais qui en plus dilapidera tout ce travail. Et la réponse de l'Ecclésiaste à ce constat, donc c'est les derniers versets du texte que nous avons lu, c'est que le bonheur doit être reçu de la part de Dieu, de la main de Dieu, dit l'Ecclésiaste, donc c'est une manière de dire de Dieu à l'œuvre. Il ne sert à rien de s'agiter dans tous les sens à travailler si l'on ne sait pas discerner et accepter le fruit du travail de Dieu, si l'on ne sait pas accepter dans notre travail que tout cela vient de Dieu. Il y a donc pour l'Ecclésiaste d'une part cette logique d'accumulation, accumulation de richesses, d'expérience, de sagesse, mais logique qui ne mène qu'à la vanité si l'on ne goûte pas le présent des dons de Dieu, si on ne répond pas à cette invitation de Dieu à accueillir dans notre travail le présent de ces dons. Et voilà le dernier verset de notre passage. « Qui peut donc manger et éprouver du plaisir en dehors de moi ? Je l'ai vu, le plaisir vient de Dieu seul. » Donc, dernier verset qui exprime cette plénitude du bonheur au présent. Plus facile à dire qu'à faire. Voilà, je pense qu'il faut encore réfléchir un peu à nos textes avant de comprendre vraiment ce que cela peut vouloir dire. Et alors, juste après ce que nous avons lu, il y a un texte que vous connaissez peut-être aussi, qui est célèbre. C'est le texte qui dit qu'il y a un temps pour tout dans la vie, un temps pour tout sous le soleil, un temps pour rire et un temps pour pleurer, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser des pierres, voilà. Et ce texte, juste après ce que nous avons lu, eh bien, c'est un des rares passages dans la Bible où on a une conception du temps qui est en fait cyclique, qui n'est pas linéaire, qui n'est pas juste une progression entre un avant et un après, mais qui est une invitation à voir le temps comme une série d'échos entre des présents différents et à chaque fois, voilà, profiter de l'instant, de l'occasion présente, l'occasion de rire ou l'occasion de pleurer. Voilà. Et donc, ce que nous dit, en fait, l'Ecclésiaste, c'est que si l'on ne pense sa vie que dans cette logique de l'accumulation, que dans cette logique d'une progression linéaire qui n'accepte pas les retours en arrière ou les détours, eh bien, on ne peut pas accueillir le présent des dons de Dieu. On ne peut pas goûter ce que Dieu nous donne au présent. Et alors, l'Ecclésiaste nous invite, en fait, je crois, à avoir une conception du temps qui soit plus dans cette perspective cyclique que ce à quoi nous sommes habitués, donc à ne pas penser notre vie dans une vision seulement linéaire, mais donc pas seulement comme une progression entre un point A et un point B, où il nous serait alors très facile de faire un bilan matériel de notre vie en nous demandant, voilà, qu'est-ce que j'ai en plus, qu'est-ce que j'ai en moins, qu'est-ce que j'ai gagné et qu'est-ce que j'ai perdu entre ce point A et ce point B. Mais voilà, une invitation, comme dans le texte de l'Évangile, en fait, à se concentrer sur le présent et à ne pas trop penser à l'avenir. Invitation voilà, plus précise, à mon avis, que ce que nous avons lu dans l'Évangile et qui donc éclaire cette parabole que nous avons lue, puisque donc il s'agit pour l'Ecclésiaste de ne pas penser notre avenir comme figé dans une progression linéaire, pas figé dans une accumulation mécanique d'expériences, de richesses, pas figé dans une forme de planification que nous voudrions lui attribuer, mais à rester ouvert aux occasions que Dieu nous offre. Et il me semble alors que si nous revenons au texte de l'Évangile avec en tête cette distinction que fait l'Ecclésiaste, eh bien nous pouvons mieux voir ce que nous dit la parabole que nous avons lue, qui, à mon sens, nous aide à repérer une différence essentielle, la différence entre la planification et le choix pour notre avenir, entre planifier notre avenir et faire ce que nous sommes bien obligés de faire, c'est-à-dire des choix pour notre avenir. Le choix, c'est le fruit de notre liberté, c'est quelque chose qui engage notre avenir et nous, dont nous devrons répondre chaque jour au présent, dans chaque circonstance que nous apportera la vie. Et la planification, au contraire, enfin, ce que j'appelle la planification, mais c'est peut-être une expression un peu anachronique, mais à mon avis, c'est une lecture possible de ce texte, eh bien, c'est une manière de vouloir figer, de vouloir contrôler tout le déroulement de notre vie, comme cet homme riche qui pense que parce qu'il a construit avec méthode des silos à grains, etc., la vie le laissera tranquille à un moment. Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est la phrase par laquelle Jésus clôt cette parabole et qui nous fait saisir l'enjeu de cette distinction entre ce qui relève de la planification donc, et ce qui relève du choix libre, puisque quand nous dépensons notre énergie à vouloir contrôler chaque paramètre de notre vie, à avoir en nous cette volonté de contrôle total de notre vie par l'organisation matérielle, eh bien nous nous empêchons de réfléchir au vrai choix, nous dit Jésus. Nous nous privons de notre vraie vie et des occasions que Dieu nous donne à saisir. Parce que cet homme amasse des trésors pour lui-même, nous dit Jésus, il s'empêche de penser à son vrai trésor, qui est son trésor spirituel. Alors une autre petite chose me surprend dans ce texte et en fait dans les évangiles en général, c'est la fréquence de l'apparition du thème de la richesse. Pourquoi est-ce que Jésus parle autant de richesse alors qu'en fait la Palestine au 1er siècle est quand même un territoire assez pauvre? Et en effet, vous voyez peut-être ce que je veux dire, mais l'image de l'accumulation de richesses est une image qu'on trouve souvent dans l'Évangile, que le Christ emploie souvent pour parler de la recherche du royaume de Dieu. Donc un peu plus loin dans l'Évangile de Luc, on a par exemple la parabole dite des mines, avec son équivalent la parabole des talents dans l'Évangile de Matthieu, donc vous connaissez sûrement, voilà, un maître répartit de l'argent entre plusieurs serviteurs et leur demande de s'en occuper, et quand il revient, il y a des serviteurs qui ont beaucoup fait fructifier, d'autres un peu moins, et il y a un serviteur qui s'est contenté de garder, d'enterrer le talent, donc ce poids d'or dans la terre, et le maître lui reproche son inertie et lui dit: mais tu aurais mieux fait de le mettre à la banque et comme ça j'aurais retiré mon argent avec intérêt, tu es un serviteur paresseux. Voilà, et si on fait attention, on s'aperçoit aussi que les évangiles attirent à plusieurs reprises l'attention sur des personnes riches, sur des personnalités, le jeune homme riche par exemple, qui demande à Jésus comment avoir la vie éternelle une fois qu'on applique tous les commandements, et Jésus lui dit « vends, tout est bien », mais des personnalités qui sont parfois aussi nommées et donc mises en valeur, voilà le collecteur d'impôts Lévi, que la tradition associe à Matthieu, le percepteur Zachée, voilà, donc des personnes bien, bien mises en valeur, mais qui restent quand même, disons, en sous-nombre par rapport, par exemple, aux 5000 personnes que Jésus nourrit parce qu'elles n'ont pas de pain sur elles, enfin avec elles, et pour qui Jésus multiplie les pains. Donc voilà, Jésus s'adresse en majorité à des personnes, des travailleurs qui ne sont pas riches, mais il y a quand même cette récurrence du thème de la richesse qui me surprend, et qui fait donc naître une autre question qui, à mon avis, peut nous faire faire un pas de plus dans la compréhension de cette parabole. Alors, dans cette interrogation, il y a un texte qui m'a éclairé. C'est un passage de Luc, un peu plus loin que notre texte. Vous connaissez peut-être aussi ce passage. Jésus dit, « Eh bien, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent de l'injustice pour que, quand il fera défaut, on vous accueille dans les demeures éternelles. » Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent injuste, qui vous confiera le bien véritable ? Là encore, l'argent sert à parler du royaume de Dieu, mais on voit qu'il s'agit ici d'exprimer l'idée que la confiance financière, la confiance qu'on fait à quelqu'un quand on lui confie de l'argent, c'est en fait la confiance la plus risquée qui soit. C'est, puisque voilà, on lui confie de l'argent et contre peu de garanties en retour. Et à l'époque, voilà, on sait qu'il n'est pas très facile d'imprimer et de montrer un relevé bancaire pour témoigner du fait que oui, on peut bien garder cet argent, etc. Voilà. Et donc, quand Jésus dit « Si donc vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent injuste, qui vous confiera le bien véritable ?» Eh bien, c'est une manière de dire que la confiance que Dieu nous fait, en nous confiant l'annonce de sa bonne nouvelle, eh bien, c'est une confiance si grande qu'elle dépasse même la plus forte confiance que nous connaissons sur Terre. Qu'elle dépasse même cette confiance financière à laquelle nous sommes habitués. Et je crois que souvent dans la Bible, quand l'argent ou le thème de la richesse est présent, c'est pour nous parler de confiance. À qui faisons-nous confiance ? Est-ce à ce qui est visible, ce qui est tangible, ce qui brille sous nos yeux ? Ou bien est-ce à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne voit pas directement ? Et je crois que cette clé de lecture nous aide aussi à comprendre notre parabole, à comprendre qu'elle nous parle aussi de confiance, mais cette fois-ci pas de la confiance que Dieu nous fait, comme dans la parabole des talents ou comme dans le texte que je viens de lire sur la fiabilité dans les petites affaires et dans les grandes, pas de la confiance que Dieu nous fait, mais de la confiance que nous faisons à Dieu. C'est à mon avis de ça dont nous parle cette parabole. Est-ce que nous lui faisons confiance pour nous proposer tout au long de notre vie de nouveaux chemins ? Ou bien est-ce que nous préférons prévoir tout le déroulé de la suite de notre vie en étant bien certain de chaque étape ? Difficile alors de faire confiance à Dieu puisque nous ne voyons pas toujours quel chemin il nous propose. Nous ne voyons pas toujours clairement où est-ce qu'il veut nous mener. Difficile puisqu'au lieu de nous agiter tout le temps, Jésus nous invite à prendre du temps pour écouter Dieu. Comment ? Eh bien, par la prière, par exemple. L'évangile de Luc, qui est le seul évangile où se trouve la parabole que nous avons entendue, c'est aussi l'évangile où Jésus prie le plus souvent. Et nous savons que nous oublions tous que prier, ce n'est pas seulement demander des choses à Dieu, mais c'est aussi écouter Dieu, se mettre à l'écoute de Dieu au présent de chacun de nos jours, pour écouter, pour entendre Dieu nous rappeler qu'il nous aime tant qu'il a donné son Fils pour nous, et que nous pouvons lui faire confiance puisqu'il a des projets pour nous aussi profonds, aussi beaux que la beauté de ce monde qu'il a créé, que les oiseaux et les fleurs des champs. Dieu nous aime plus, nous dit Jésus peu après notre texte, Dieu nous aime plus que tous ces oiseaux et que les jolies fleurs des champs. C'est merveilleux. Nous le croyons en tout cas, nous croyons que c'est une chose merveilleuse que Dieu nous appelle à faire confiance à son amour. Amen.